Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne, 1959-1960, l'immédiat. Aujourd'hui, cours numéro 1, enregistré le 7 décembre 1959, modernité de l'immédiat.
Nous allons nous trouver au seuil de ce nouveau cours, dans le même embarras qu'au cours des précédents, c'est-à-dire devant les questions embrouillées par le langage et rendues presque inconnaissables par la nature même de l'objet que nous nous proposons. Monsieur Jean Val remarque, dans son traité de métaphysique, dans une dizaine de pages, très pénétrante, qu'il consacre aux médias et à l'immédiat, page 498-509, que la question de l'immédiat est rendue obscure par le langage, puisque le mot immédiat est un mot négatif, privatif, et qui se définit... qui semble se définir par opposition aux médias dont il est la négation. Donc, à ne consulter que le langage, c'est l'immédiat qui est négatif et le média qui est positif. Si bien que le langage semble s'inscrire en faux contre l'expérience spontanée et contre la recherche même du concret et d'une expérience intérieure qui nous dit le contraire. On peut remarquer d'ailleurs que ce croisement entre la grammaire et la vérité de l'expérience, ce chiasme, pourrait-on dire, puisque nous parlions de grammaire, est fréquent. On le retrouve pour d'autres concepts qui sont les plus positifs du monde et qui s'expriment par des mots négatifs, précisément. Et il y a à cela de bonnes raisons, des raisons générales, qui ne valent pas seulement pour l'immédiat, mais comme je le montrerai tout à l'heure, pour d'autres concepts qui sont également les plus positifs du monde et pourtant se présentent sous une forme négative. Cette raison générale qui explique cette difficulté, ce désaccord entre le langage courant du sens commun et la philosophie, c'est que les catégories grammaticales, et négation et position sont des catégories grammaticales, sont taillées à la mesure de l'expérience de la médiocre empirie, de l'expérience de l'homme moyen, pour lequel elles sont précisément faites, dont, comme Bergson le montrait, elles sont le reflet et l'image. Or, du point de vue de l'homme empirique, du point de vue de l'homme moyen, épais, tâtonnant, de l'homme intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire à moitié savant, à moitié ignorant, l'homme à la fois savant et ignorantin, c'est-à-dire, en un mot, du point de vue de la finitude créaturelle, de la finitude humaine, qui est notre lot, notre destinée, il n'est pas douteux que c'est la positivité suprême qui semble négative, et vice-versa, que c'est la négativité empirique qui semble positive. Ce qui donc nous paraît négatif, c'est ce qui est positif, et vice-versa. En effet, c'est la positivité suprême qui semble négative, et parce qu'elle est inexprimable, parce qu'elle échappe au langage et qu'elle ne peut pas se définir, ni se dire, ni se prononcer, et vice-versa, c'est la négativité empirique, laquelle est toujours une semi-positivité, de même que nous disions que l'homme est un être intermédiaire entre le savoir et l'ignorance, comme déjà le savait Platon. C'est cette demi-négativité qui est aussi une demi-positivité qui nous paraît positive en tant qu'elle elle se rapporte à un être entrecoupé de non-être, à un être entremêlé de vide, à un être entrelardé de matière, de nuit, d'obscurité, si on peut dire, un être troué de non-être comme une vieille guenille. C'est cela l'être à la moitié négatif, moitié empirique que nous révèle l'expérience et qui nous paraît mériter le nom de positivité, duquel il y a quelque chose à savoir, à dire, à comprendre et sur lequel il y a à parler indéfiniment. En effet, ceci est d'ailleurs très important, puisque ce qui nous semble pensable est ce dont nous pouvons parler. Or, c'est cette demi-positivité à demi-négative que nous pouvons parler, qui mobilise le logos aux deux sens du mot grec logos, c'est-à-dire qui mobilise à la fois la raison et le discours, puisque logos est les deux, qui mobilise le langage et l'attribution. Donc, c'est cette semi-positivité à moitié négative qui délie les langues, qui rend bavard, prolixe, volubile, si on peut dire. Et l'homme parleur, comme disait encore Bergson, l'homo loquax, est à son affaire avec cette demi-positivité. Sur elle, il y a donc beaucoup à dire. Elle est vraiment indéfiniment renouvelée. C'est elle qui fournit à l'homme loquace, l'homo loquax, qui lui fournit ses sujets de dissertation philosophique, des thèmes pour ses discours, et en un mot, une matière riche et indéfiniment renouvelée. Platon, dans son dialogue Le Sophiste, Platon qui craignait par-dessus tout le bégaiement éléatique, n'est-ce pas, le bégaiement de Parménide, la paralysie du discours et de la prédication, c'est-à-dire précisément de la fonction par laquelle nous rapportons un attribut à un sujet et qui rend possible le discours, et donc qui craignait cette paralysie, disait dans ce dialogue Le Sophiste que c'est le non-être, autrement dit, l'altérité, l'autre que l'être, l'autre côté l'être, c'est le non-être, en tant qu'il est mélangé avec l'être ou avec le même, qui dépanne la science, qui dépanne la relation. Naturellement, il ne le disait pas tout à fait dans ce langage, mais ça revenait à ça, qui dépannait le jugement. L'autre, c'est-à-dire le non-être de chaque être, le non-être de tout être, c'est lui qui permet le passage d'une idée à une autre, qui permet qui justifie la convenance ou la disconvenance d'un attribut à un sujet, et qui mobilise, donne plutôt un sens à cet entretien muet de l'âme avec elle-même, qui était pour lui la pensée. La dialegestai siope et auto, le discours avec soi-même. Et d'ailleurs, ce sont ces négations les plus volubiles qui remplissent le langage, parce que la négation est indéterminée, parce qu'elle est infinie comme l'erreur, et qui nous permet de déclarer que tel attribut ne convient pas à tel ou tel sujet. C'est elle qui remplit le discours, et c'est elle qui offre une prise indéfinie à ce discours. Et par conséquent, à la place de l'estime parménidien, qui est à piétinement sur place, du cela est, comme on traduit quelquefois, à la place de cette tautologie fascinante, voici rendu possible par le non-être, par le mélange de la négation et de la position, voici rendu possible la synthèse, et grâce aux négations et aux attributions. Ici, beaucoup à dire. À partir d'ici, tout à dire. Seulement, malheureusement, ce n'est pas le sujet que nous avons choisi, qui était le plus volubile, enfin, avec lequel je n'aurais jamais été au bout de mon rouleau, avec lequel j'aurais été sûr d'avoir beaucoup à dire toute l'année. Parce que, en somme, c'est, répétons-le, c'est la négativité empirique qui est demi-positivité, qui est empiriquement positive, disions-nous, parce qu'elle offre au discours un aliment, et des prises, de quoi penser et de quoi pérorer. Et pérorer plus encore que de penser. Et vice-versa, c'est la positivité souveraine, celle d'un être sans mélange, qui nous paraît empiriquement négative, précisément parce qu'elle est métempiriquement positive, métempiriquement pure, parce qu'elle ne comprend pas d'ombre. Là où il n'y a pas d'ombre au tableau, là où il n'y a pas le moindre recoin de négativité, et nous n'avons plus rien à dire. Et par conséquent, cette positivité suprême, vous me direz que l'immédiat n'est pas peut-être cette positivité suprême, c'est ce que nous vérifierons. C'est un de nos sujets. En tout cas, c'est cette positivité qui nous retire le pas de la bouche. Avec elle, rien à se mettre sous la dent. Nous allons mourir d'inanition. La pensée de l'immédiat, dans la mesure où l'immédiat supprime l'attribution, le discours et l'itinéraire nécessaire pour rejoindre l'être, pour rejoindre le réel, dans la mesure où, comme le mot l'indique, nous distinguons les deux sens, spatial et temporel, si je puis dire de ce mot, et ce sera même, je l'annonce tout de suite, le plan de notre recherche, d'une part l'immédiat dans le contact immédiat avec le réel, et d'autre part l'immédiat dans l'ordre du temps. Ceci donc est encore plus frappant dans l'ordre du temps, avec lui, on est aussitôt au bout. Donc, non seulement la pensée de l'immédiat ne nous donne rien à penser, et avec elle nous mourrons d'inanition, et peut-être même nous courons le risque de nous endormir, ce qui arrive quand on ne pense plus à rien. Craignez l'immédiat comme la positivité pure, comme il faut craindre le sommeil. Craignez le sommeil, la retombée dans le sommeil. Et en effet, il y a dans cette pensée du point fixe de l'immédiat, il y a un élément élément d'hypnose, si on peut dire. Il y a un élément d'hypnose dans l'idée d'une pensée médusée par ce point fixe de l'immédiat, qui est d'une part apporté à proximité directe de nous-mêmes, à tel point qu'il coïncide avec nous-mêmes, et d'autre part, qui s'offre à nous, sans discours, immédiatement, comme on dit cette fois au sens temporel, qui est donc à la fois la plus grande proximité dans l'ordre de l'espace, la plus grande proximité puisque finalement il est nous-mêmes, et d'autre part, la plus grande imminence dans l'ordre du temps, puisqu'il coïncide presque avec le présent. C'est dans la distance de ce presque, c'est-à-dire l'intervalle qui me sépare de l'instant et l'intervalle qui me sépare de ce qui n'est quand même pas moi, que réside la possibilité d'une intuition. Mais enfin, n'en disons pas trop aujourd'hui, parce que vraiment, je serai au bout de mon rouleau dès aujourd'hui, ce qui, à la lettre, ce qui serait le plus dangereux de tout. Donc, disons, pour résumer ces points, qui, je crois, sont déjà suffisamment clairs, c'est que l'immédiat que nous allons rechercher, avec lequel nous rechercherons nos rapports, puisque nous montrerons que c'est plutôt le rapport de l'homme avec l'immédiat, qui est immédiat, donc c'est plutôt l'immédiateté se rapporte à ma relation, à quelque chose, et non pas à l'être lui-même, disons qu'il est négatif dans le sens où la théologie négative est négative, dans le sens où, comme on dit, la théologie apophatique est négative. Elle est négative non pas parce que l'objet qu'elle essaye d'approcher est négatif, car au contraire, elle est négative précisément parce que cet objet est la positivité suprême et qu'en conséquence, on n'en peut parler que négativement. Parce que son objet, qui est l'absolu, en l'espèce, et je sais bien que l'immédiat n'est pas exactement l'absolu, parce que cet objet est trop éblouissant, parce qu'il est imprédicable à force de positivité, je veux dire, capable d'entrer dans une prédication quelconque, inattribuable, et non pas seulement ineffable, mais encore impensable, puisqu'il faut répondre aux deux sens du mot logos. Non seulement on ne peut le dire, mais on ne peut même pas le concevoir, ni le penser. À la fois indicible et inconcevable, à la fois ineffable et impensable, les deux ensemble. Et nous vérifions, quand nous réfléchissons sur la négativité de cette science de la positivité suprême, cette fois suprême, souveraine, qui est Dieu, nous vérifions cette espèce de compensation dialectique que nous avons déjà remarquée lorsqu'il s'agissait de l'immédiat. Une compensation qui fait que une sorte d'alternative qui nous est proposée, nous ne pouvons pas avoir tout à la fois, nous ne pouvons pas avoir les deux ensemble. Lorsque l'objet est relativement négatif, c'est la connaissance qui est positive, c'est-à-dire qui est affairée, bien étoffée, riche dans la matière et toujours renouvelée, et vice-versa. C'est lorsque l'objet est positif, et surtout lorsque l'objet est absolument positif, comme l'est Dieu, lorsqu'il ne comporte pas le moindre recoin de potentialité, de possibilité, quand il est comme l'actus purissimus d'Aristote, c'est alors que notre gnose, la connaissance que nous en prenons, devient négative, c'est-à-dire pauvre et nue, pauvre infiniment et nue infiniment, aussi vite fini que commencé dans le temps, c'est-à-dire qu'elle tient en un mot monotone, comme peut-être la philosophie de la mort que nous faisions les deux années précédentes et à laquelle nous repenserons souvent, qui peut-être nous lie également à un mot, à un seul mot, toujours le même, et qui stérilise et méduse la pensée. Et pourtant, c'est cette positivité, c'est cet inconnaissable qui fait connaître. L'inconnaissable fait connaître, bien que en soi, il ne peut pas être connu. Et peut-être y a-t-il une profonde raison à cela, ce qui fait connaître ne peut pas être connu. La source de la connaissance ne peut pas être elle-même connaissable, car si elle était elle-même connaissable, elle requérerait quelque chose d'autre qui la fasse connaître. Donc, ce qui fait connaître ne peut pas être connu, et vice-versa, ce qui est, au contraire, de l'être lacunaire, interrompu, comme le phénomène, laisse connaître. L'inconnaissable fait connaître, et au contraire, le connu à moitié inexistant, l'existence à moitié inexistante, en tant qu'elle est privative, permet de connaître. Elle ne fait pas connaître, mais elle nous laisse connaître. Voilà l'alternative. C'est celle qui fait que, par exemple, Dieu ne peut être que entrevu, pressenti ou deviné, lorsqu'on regarde de côté, lorsqu'on regarde obliquement. Quand on regarde en face, on ne voit rien. On voit quelque chose comme le néant, ou comme qui ressemble beaucoup au néant. C'est donc en détournant les yeux que peut-être on a des chances d'apercevoir quelque chose en regardant à côté. Et par exemple, en regardant dans ce vaste à côté, puisque nous n'avons que l'embarras du choix, en détournant les yeux de l'indicible mystère de la création sur l'évidence trop dissible des créatures, comme il arrive même dans le monde de l'art, où lorsqu'on regarde le créateur ou l'acte de la création elle-même, on n'y voit rien, et rien à penser, rien à dire, mais peut-être que nous en saurons quelque chose en regardant à côté, c'est-à-dire après, en regardant la créature, en regardant la statue, le chef-d'œuvre, le tableau, le poème, qui peut-être nous donnera un message. Donc, du mystère même, qui n'est qu'un instant, et qui est aussi impénétrable au créateur qu'au spectateur, qu'à l'auditeur, rien à dire, mais par contre, sur les œuvres, tout à dire, beaucoup à dire, et tout à dire. Et donc, on peut montrer que là aussi, au fond, les réflexions sur les œuvres, c'est une grande théologie négative, apophatique, n'est-ce pas, qui, en désespoir de cause, incapable de penser directement l'acte positif de la création, s'offre un regard oblique. L'obliquité, n'est-ce pas, l'obliquité du regard, voilà ce que nous inventons pour avoir quelque chose à dire, pour dépanner la philosophie, pour avoir quelque chose à nous mettre sous la dent, comme nous le disions tout à l'heure. Alors, l'obliquité, c'est le contraire de l'immédiateté, de l'immédiat. Au lieu donc d'un regard immédiat, d'une vision immédiate qui ne nous donnerait rien, un regard oblique, indirect, réfracté sur quelque chose, une évidence, elle, obvie, une évidence patente et elle, dissible, et qui nous permet, par exemple, de parler d'autre chose, de parler de choses et d'autres, ce qui revient au même, à propos du mystère de la création, à propos de Dieu ou de l'art, parler d'autre chose ou parler de choses et d'autres, car quand nous parlons de la chose elle-même, nous n'avons plus rien à dire. Donc, qu'est-ce que vous préférez ? Qu'on parle de la chose elle-même en n'ayant rien à dire, ou qu'on ait beaucoup à dire en parlant d'autre chose, n'est-ce pas ? Au fond, c'est l'alternative de la philosophie, n'est-ce pas ? Avoir beaucoup à dire en parlant à côté, à propos, en faisant des discours à propos, et nous sentons bien que ce n'est pas le sujet. Comme ceux qui prétendent venir parler de Dieu, qui racontent des histoires à côté et autour, qui prétendent parler de l'art, et qui parlent de la vie de l'artiste, qui parlent des interprètes, qui parlent de petites histoires, de choses et d'autres. Parce qu'il s'agit d'éviter le tête-à-tête direct. Voilà donc une alternative dont il n'est pas facile de sortir et qui est inquiétante. Et dans laquelle, en tout cas, le non-être de... littéralement de l'allégorie, au sens propre du mot allégorie, par laquelle nous parlons d'autre chose que du mystère, d'autre chose que de Dieu, en l'espèce d'autre chose que l'immédiat, c'est évidemment un obstacle, mais un obstacle qui en un sens est un instrument. Un obstacle qui nous permet de parler et peut-être même aussi de temps en temps de penser un peu. Un obstacle qui est, comme nous le disons souvent, un organe, un instrument. Voilà ce que qui nous serait permis. Mais la vision directe et immédiate nous semble au contraire stériliser, comme nous le disions, et méduser la pensée. C'est pourquoi, et nous sommes toujours un peu dans l'ordre de la théologie négative, Plotin et Denis l'Aréopagite disent que, surtout Denis l'Aréopagite d'ailleurs, mais c'est un peu aussi chez Plotin, parfois, la source resplendissante, la source irradiante, la source luminifère de la lumière n'est pas elle-même lumineuse. Et même, Denis va jusqu'à dire que non seulement elle n'est pas lumineuse, mais qu'elle est obscure, qu'elle est une grande ténèbre. Donc l'idée dionysienne de la grande ténèbre, de cette source de la lumière qui est la grande ténèbre, vient de ce que, comme nous disions tout à l'heure, que l'inconnaissable lui-même est ce qui fait connaître, ou vice-versa, que ce qui par excellence fait connaître doit être en lui-même inconnaissable, de la même manière, ce qui donne la lumière, ce qui en est la source, ne peut pas être lumineux à son tour, mais au contraire, est parfaitement obscur. C'est une lumière aveuglante, qui, entendez pour l'œil humain, est la grande ténèbre. Entendez pour les yeux des hommes, c'est une grande ténèbre. Et ceci même, c'est-à-dire le caractère obscur de la lumière primordiale, le caractère inconnaissable de ce qui fait connaître, tient à une autre vérité encore plus générale, qui s'applique à tout cela à la fois, et qui est que, celle qu'on pourrait exprimer ainsi, ce qui donne n'est pas ce qu'il donne. Ce qui confère, ce qui crée, n'est pas lui-même ce qu'il crée. Ce qui fait, n'est pas lui-même, est autre chose. Ce qui donne n'est pas, et a fortiori, ne possède pas ce qu'il donne. Car s'il l'était, ou s'il le possédait, s'il était donc à la fois un être ou un possesseur, il requérerait un principe plus anarché, plus souverain que lui, duquel il le devrait. En d'autres termes, ce qui donne l'être n'a pas lui-même l'être. Et même ce qui donne l'être et n'a pas l'être ressemble tellement au non-être que parfois on peut l'appeler du même nom. Comme tout à l'heure nous disions que ce qui donne la lumière n'est pas lui-même lumière puisqu'il la donne. Ce qui confère l'être n'a pas d'être puisqu'il le donne. Et c'est pourquoi on trouve des pensées qui se rejoignent dans le pèlerin chérubinique de Angelus Silesius, dans le Zohar, dans beaucoup d'écrits mystiques, c'est que l'absolu est comme au rien, ressemble au néant, et un sur-rien, dit souvent Angelus Silesius. L'absolu est comme un sur-rien. C'est que, en effet, ce qui donne l'être est un peu comme ce qui n'en a pas du tout. C'est un non-être, comme parce que les extrêmes se rejoignent tout en étant contradictoires. Ils se rejoignent, mais se contredisent, en ce que l'un, qui est le non-être pur et simple, est au-dessous de l'être, n'a même pas l'être, tandis que l'autre est au-dessus. Il est non-être, non pas parce qu'il est au-dessous, mais parce qu'il est infiniment plus que l'être, puisqu'il le donne aux autres, et qu'il donne ce que, justement, il n'a pas. Il est infiniment plus. Si bien que, de ces deux non-êtres, il y en a un qui est l'absolu, n'est-ce pas ? Nous verrons peut-être celui avec lequel nous avons un rapport immédiat, qui est non-être parce qu'il donne l'être, et l'autre qui est à insuffisance et qui ne sert qu'à atténuer, qu'à modérer l'éclat et la tension du sur-être, de ce qui est plus que l'être, et qui le pose, et qui consumerait la pensée, si nous voulions directement la pensée, le penser, qui nous empêcherait de penser. Insoutenable est la lumière du bien. D'ailleurs, c'est aussi dans la Bible. C'est pour ça, probablement, enfin, quoique je ne sois pas dans ce secret, mais enfin, l'auteur de la Bible, les auteurs de la Bible disent sans cesse qu'on ne peut pas regarder le visage de Dieu, et ni même, a fortiori, prononcer son nom, car prononcer le nom de Dieu, c'est déjà un commencement de discours, c'est un logos en miniature, n'est-ce pas, qui va s'ouvrir, et que l'intuition de Dieu glace, paralyse le discours, comme une tête de gorgone, si nous osons comparer ici le visage de Dieu à une tête de gorgone, qui est évidemment bien sacrilège. Disons donc que l'idée même que ce visage est insoutenable, que cette lumière est insoutenable, implique qu'elle est à sa manière aussi invisible que l'obscurité la plus noire, mais pour d'autres raisons, pour des raisons contraires. Et par conséquent, qu'est-ce qui est visible ? Puisque ni cette lumière qui est luminifère, qui n'est même pas lumineuse, ni l'obscurité que Plotin et les Orphiques disent être celle de la matière, ne sont visibles, qu'est-ce qui est visible ? Eh bien, tout l'entre-deux. L'homme, créature de l'entre-deux, se meut dans cet entre-deux, dans l'entre-deux, avec son relief, un paysage en relief. On comparerait volontiers cet entre-deux connaissable, qui est celui de la philosophie aussi bien que des peintres, à un paysage en relief, c'est-à-dire composé de rayons et d'ombres, les rayons et les ombres, comme chez le poète. Un paysage clair-obscur. Ce qui est connaissable, c'est le clair-obscur. Comme ce qui est visible, c'est le clair-obscur. Ni la clarté souveraine, ni naturellement l'obscurité absolue. C'est le clair-obscur qui est donc à la fois visible et connaissable. Et de même, la positivité, pour revenir à notre commencement, la positivité pure, source de toute connaissance, est aussi inconnaissable que la négativité pure. Mais ce qui est connaissable, c'est donc l'entre-deux, c'est ce paysage en relief qui est mélangé de positivité et de négativité, avec ce paysage à la bonne heure. Voilà du pain sur la planche qui nous revient, et il y a de beaux jours et une riche matière pour la connaissance, et les professeurs, comme moi, ont retrouvé un sujet de cours, quelque chose à dire. On pourrait s'exprimer encore un peu autrement en disant que il y a, si vous le voulez, deux espèces de négation ou de non. L'un qui est le nom du non-être empirique, dont je disais qu'il troue la guenille de l'être empirique, et qui est un non en vue d'un oui, comme le médium, l'intermédiaire, le médium permet en empêchant. C'est un non en vue d'un oui, c'est une négation en vue d'une affirmation, comme dans l'effet de relief, une négation qui, par antithèse, permet l'affirmation. Et un autre non, qui est celui de l'absolu, de l'absolu qui dit non à tous les prédicats que nous pourrions lui décerner, et ce non est un refus, non pas seulement une négation, mais un refus, dans lequel l'affirmation est renvoyée à l'infini. Ce n'est pas une affirmation renvoyée à un autre. Par exemple, la neige n'est pas noire, la neige n'est pas bleue, la neige n'est pas verte. Enfin, une foule d'adjectifs disconviennent à la neige et renvoient à un adjectif qui seul lui convient, et qui est la blancheur. Donc, toutes ces négations, s'agissant d'un être empirique, qui est la neige, renvoient à une affirmation qui est sont faites pour elle. Et lorsqu'il s'agit, au contraire, de Dieu ou de l'absolu, ces affirmations sont un refus catégorique de tout adjectif, qui nous renvoie à l'infini, qui renvoie l'affirmation plus loin que tout, et qui ne permet même pas des affirmations avec en donnant un sens partiel au verbe être, un sens partiel à la copule. C'est un ou encore dans un autre langage, nous dirions que, puisque le sophiste nous permettait de parler de l'autre en même temps que du non-être, nous dirions que dans l'empirie, nous avons affaire à un autre qui est autre que tels autres, n'est-ce pas, mais qui est quand même lui-même, et on peut finir par trouver ce qu'il est lui-même. Il est autre que tels autres définis, déterminés, si nombreux qu'ils soient, et si riches qu'en soit la liste, si longue qu'en soit l'énumération. Tandis que l'autre, qui est Dieu, est absolument autre. Il est autre que tout autre, n'est-ce pas ? Il est autre à l'infini. Il est absolument autre que tout. C'est un autre qui n'est pas autre que tels ou tels êtres, mais quel que soit l'être auquel on le compare, quel que soit l'adjectif qu'on voudrait lui décerner, quel qu'il soit, il est autre à l'infini. Il est donc absolument autre, radicalement autre, comme nous disions en parlant de la mort l'année dernière, qu'il s'agit d'un ailleurs absolu. Et d'ailleurs, bien que Dieu et la mort, ce soit de point de vue tout à fait différent, deux objets tout à fait différents, on pourrait dire aussi dans le même langage que Dieu est absolument ailleurs, non pas ailleurs qu'ici ou que là, dans un autre endroit, n'est-ce pas ? Par exemple, le chat de Perse doit se voir à Téhéran, n'est-ce pas ? Mais pas à Pékin, dans une ville et pas dans une autre. Il est ailleurs qu'à Paris, mais il est quelque part. Dieu, à la différence de ce personnage, qui est pourtant unique dans le monde, Dieu est ailleurs que partout. Lui, c'est pas seulement à Téhéran, c'est partout. Il est absent de partout. Et vice-versa, peut-être présent partout. En tout cas, comme vous le voyez, il s'agit d'un refus des catégories, qui n'est pas un refus relatif, une récurrence de l'un à l'autre, pas un passage relatif et relationnel de l'un à l'autre, mais qui est une récurrence infinie dans laquelle la conscience se reconnaît absolument, définitivement et irrémédiablement inadéquate à son sublime objet. Irrémédiablement inadéquate. Ainsi, nous voyons que il n'y a pas à s'étonner que, puisque nous parlions de l'absolu, en commençant par lui, qui se laisse entrevoir uniquement comme non relatif, irrelatif, en dehors de toute relation, abs relationibus, ce qui n'est pas une manière, évidemment, de le laisser penser et d'en faire le terme d'une relation, hors catégorie, sans détermination circonstancielle, sans aucune manière d'être ou modalité, comment s'étonner si, à certains égards, ils nous apparaissent comme indiscernables du néant abyssal, du moins pour celui qui ne se fie qu'à l'aspect extérieur des choses, et qu'on puisse l'appeler, en effet, une sorte de sur-rien. Vous comprenez maintenant mieux ce par quoi nous commencions, et qui se peut nous servir, si vous voulez, de leçon introductive, c'est-à-dire le chiasme de la positivité et de la négativité. L'immédiat est négatif du point de vue de la grammaire, parce que la seule matière positive, du point de vue d'une pensée qui suit la grammaire et qui suit le discours, ce serait, et au contraire, la médiation, et qu'on ne peut se représenter l'immédiat, du point de vue d'en bas, du point de vue où nous sommes placés, on ne peut se le représenter qu'en lui refusant les moyens termes. Est immédiat ce qui ne comporte pas de moyens termes, ce à quoi on accède sans moyens termes, comme est absolu ce qui est situé en dehors de toute relation. les moyens termes étant d'abord posés. Et je continuais en disant tout à l'heure que ceci n'est pas particulier à l'immédiat, mais à beaucoup d'objets du même genre et qui ont ce dénominateur commun d'être métaphysiques, d'être métempiriques. L'infini, par exemple, pour commencer même, l'infini, du fini et de l'infini, c'est l'infini qui a la forme grammaticalement négative. C'est l'infini qui apparaît comme négatif parce que c'est lui qui se définit comme par opposition à ce que l'on peut percevoir et qui a toujours une forme déterminée, une forme limitée qui le rend perceptible et qui est la forme finie, puisque cette limitation dérisoire est précisément la condition même du connaître, de même que la portée et le champ d'un organe sensoriel qui détermine les limites au-delà desquelles la perception n'est pas possible sont justement ce qui rend l'objet perceptible, ce qui rend la perception possible. La perception est possible parce qu'elle a un champ, parce qu'elle a une portée au-delà de laquelle, eh bien, l'objet devient imperceptible. Et donc, la finitude même de la perception, admirablement délimitée par l'idée du champ, par la métaphore du champ, qui est la condition même de la perception. Plus généralement encore, c'est cette finitude qui est ici s'exprime dans la circonscription de la forme, dans la circonscription morphologique, qui en fait, pour nous, la positivité. Et pour nous concevoir l'infini, il faut d'abord la supprimer pour aboutir à la morphe primordiale. C'est donc ce dont les Grecs avaient certainement un sens plus vif que nous, étant plus attachés que nous à la forme plastique des choses, et chez eux, Apeiron avait certainement un sens négatif beaucoup plus déterminé, beaucoup plus parlant et vécu que pour nous le mot infini, qui a fini par devenir pneumatiquement positif. L'infini est grammaticalement négatif, mais pneumatiquement, personne ne pense à une négation et à l'absence de finitude, et au contraire, le christianisme, la métaphysique moderne, nous a habitués à l'idée que c'est le fini qui est une création, qui est une limitation et une restriction de l'infini, n'est-ce pas ? Ce qui est donc le contraire de la grammaire. Mais il n'en était pas de même à l'époque où Platon écrivait le Philebe et opposait le péperasménon, le péras, qui est la limite ou le limité, l'opposait à l'apeiron, à la négativité de l'apeiron. Mais remarquez, plus simplement encore, et pour renvoyer à une recherche de l'année dernière, le chiasme du mortel et de l'immortel est du même ordre. Le mot négatif, c'est l'immortel. Ce qu'on se représente, privé de mortalité, pour la même raison, parce que c'est dans la positivité de l'existence mortelle que nos sentiments sont vécus dans leur dimension normale, dans leur dimension positive et de leur dimension concrète. Et que de l'immortalité, nous n'avons aucune idée, sinon des idées romanesques ou des représentations gratuites et arbitraires. Si bien que nous ne pouvons nous la représenter que comme une privation, comme l'état d'un être privé de temps, privé de sentiments concrets, privé de toutes ces dimensions qui expliquent l'existence concrète. Et en allant plus loin encore, sans pourtant nous éloigner, comme vous le verrez, au contraire, nous nous en rapprochons, sans nous éloigner de l'immédiat, c'est par là même le même chiasme qu'on expliquerait que le caractère négatif d'idées comme le désintéressement, l'indifférence ou l'indétermination. Ces mots sont originellement négatifs et nous en avons perdu le sentiment, notamment pour le désintéressement, bien que ce mot soit obscurément négatif, d'une négativité peu accentuée, mais quand même présente. Et pourquoi est-ce l'indifférence, qui elle est tout à fait un mot privatif, et le désintéressement qui apparaissent négatifs? C'est parce que tout ce qu'il y a de concret et d'assignable dans l'existence, de palpable, de tangible, ce sont les intérêts et les motifs, et surtout les plus concrets et les plus palpables de tout, qui sont les motifs et les raisons égoïstes, qui sont absentes chez l'homme désintéressé. On ne peut, à première vue, grammaticalement, pour quelqu'un qui ne pense qu'à partir de la grammaire, on ne peut s'expliquer à un homme désintéressé que comme un être, un pauvre type, un être pauvre et nu, qui est privé de toute motivation, dans lequel il n'y a rien de palpable et de concret, dans lequel on ne sent aucun intérêt matériel, c'est-à-dire assignable, déterminable, et qui agit par désintéressement, autant dire sans motif, autant dire qu'il n'a pas de motif. On ne trouve pas donc en lui l'élément tangible, palpable, qui est par exemple l'instinct et la passion, ou le désir de l'ego, de s'arrondir. Et le pur acte désintéressé, même à la limite, celui qui est purement désintéressé au sens fénelonien du mot désintéressement, et celui d'où est absent tout intérêt quel qu'il soit, même un intérêt tendre pour une personne, même un intérêt tendre pour une créature, un intérêt dilectif, un intérêt abatif pour quelqu'un. Donc, c'est un acte absolument immotivé, et qui est aussi immotivé qu'une décision gratuite. Or, une décision gratuite, prise sans raison, n'est-ce pas, est un monstre, un état limite, à la limite de la psychologie et d'on ne sait quoi, et c'est pourquoi un moraliste comme Leibniz n'en voulait pas, et pensait qu'il n'y a pas d'acte gratuit, et qu'un acte sans raison est encore un acte qui a une raison, mais une raison plus subtile que les autres, par exemple, la décision d'agir sans raison. La volonté d'étonner les autres par un acte caprice, par un geste capricieux. Bref, l'idée d'agir sans raison est bien loin d'être un acte désintéressé et gratuit, mais c'est encore un acte motivé, mais motivé plus sournoisement. Sa motivation est sournoise. C'est par exemple le désir d'étonner, ou même simplement le désir, car le désir d'étonner est encore trop concret, c'est le désir d'agir sans raison. N'est-ce pas, vous croyez que je vais faire ci, je ferai ça, ou bien je ferai ci, justement parce que vous croyez que je ferai le contraire. Je ferai justement ce que vous attendez, parce que vous croyez que pour vous étonner, je ferai le contraire. Alors je ferai justement ce qui ne vous étonnera pas, mais par un raffinement, et le raffinement peut ainsi raffiner à l'infini. Mais il a beau raffiner à l'infini, car toute subtilité peut trouver en dehors d'elle une subtilité plus grande, toute finesse, une super finesse, qui la déjoue, à chaque moment, l'acte a une raison. Eh bien, qu'est-ce à dire, pour ne pas nous perdre le fil, que je suis sur le point de perdre, malgré tout, qu'est-ce à dire, sinon qu'il y a impossibilité de penser et de concevoir la pure positivité gratuite, cette fois, de quelque chose qui est au-delà de toute détermination concrète. Et par exemple, au-delà de toute différence, comme on le dit d'un acte justement indifférent, dans la liberté d'indifférence. Tout à l'heure, vous rappelez ce que je disais par métaphore, une pensée qui meurt de faim. Qui meurt d'inanition faute d'objet, n'est-ce pas, n'ayant plus rien à se mettre sous sa dent de pensée philosophique. Le philosophe n'a rien à se mettre sous sa dent. Eh bien, je pensais aussi à l'âne de Buridan, n'est-ce pas, qui est mort de bottes de foie. Parce qu'il n'y avait aucune différence entre les deux bottes. Qu'à droite et à gauche, l'une n'était pas plus grande que l'autre, l'autre n'était pas faite d'avoine plus fraîche que la première, ni plus appétissante, il n'y avait aucun élément différentiel, aucune diaphora. C'est-à-dire la différence, c'est-à-dire à la fois le même et l'autre, l'élément concret qui permet de distinguer deux êtres, qui est déterminable. C'est, nous pensons par la différence, la conscience est conscience des différences. Dans la diaphora, dans l'élément différentiel, nous retrouvons l'effet de relief dont je parlais tout à l'heure, à propos du clair-obscur, et à propos des paysages tourmentés avec des bosses, des creux, des montagnes et des vallées, qui est le paysage humain, n'est-ce pas, usuel, et le paysage également métaphysique. Donc, cette indifférence dans laquelle est effacée toute une unilatéralité, tout élément différentiel, comme par exemple entre des jumeaux, qui sont indiscernables, mais quand même, ils sont indiscernables pour un œil empirique, mais la mère arrive probablement à les discerner. Puis, comme ce sont quand même des créatures, nous savons bien que, à moins de vivre côte à côte, perpétuellement, il y a des différences psychiques également. Et c'est donc la limite métapsychologique de l'indicible et de l'ineffable, qui est la limite en même temps du pensable. Est-ce que ce n'est pas, au fond, une des raisons pour lesquelles Fénelon avait été condamné pour chimérisme, avait été inquiété, et pour lequel sa philosophie paraissait, par son modernisme même, très inquiétante. Fénelon, le théoricien de l'amour pur, mais aussi, nous le verrons, de l'immédiat, est aussi celui de l'acte fait par pur amour, n'est-ce pas, pur amour sans aucun intérêt concret, sans aucun intérêt psychologique, n'est-ce pas, car ce qui est éliminé dans l'amour pur, c'est la motivation psychologique assignable et concrète. Remarquez, et ce n'est pas un jeu de mots, car c'est conduit à imposer par les concepts eux-mêmes, dans déterminisme, il y a détermination. Et dans un déterminisme, il y a par conséquent un détermination. L'acte déterminé dans tous les sens du mot, c'est-à-dire qui a les causes, est aussi un acte qui rerum terminus, novit, comme dirait Sénèque, qui connaît les termes des choses, qui est circonscrit, quoi, qui est assignable, que l'on peut décrire, qui a des antécédents, et qui a alpha et oméga, enfin qui est comme ces figures plastiques dont nous parlions tout à l'heure, et qui sont circonscrites dans l'espace. Il est donc assignable quand ce ne serait que par ces raison. Et inversement, l'acte indéterminé, quand il est en tant qu'il est indifférent, et précisément en tant qu'il ne comporte aucune détermination assignable, parfaitement impensable, est une limite psychologique, et c'est pourquoi nous le verrons de la liberté. Il ne peut y avoir qu'une intuition immédiate. Et toute pensée de la liberté, toute pensée de la liberté, de l'acte libre, indifférent, est nécessairement une pensée déterminante, qui montre ses raisons. C'est donc uniquement à une vision immédiate et irrationnelle que se découvre la vérité de la liberté. Mais ceci, c'est déjà la fin de mon cours, et nous n'en sommes pas là, puisque nous sommes au contraire tout à fait au commencement. Eh bien, nous-mêmes d'ailleurs, pour faire comprendre le contact de l'homme avec l'immédiat, sinon l'immédiat lui-même, tout au moins ce que peut être ma relation irrelative avec l'immédiat, une relation tout au moins sans moyen terme avec l'immédiat, eh bien nous partirons de ce qui est exprimable. Pour accéder à l'inexprimable, nous partirons de l'inexprimable comme le fait la théologie négative, qui parfois part des créatures pour aller au créateur ou des concepts de la grammaire pour l'exprimer. Nous parlerons le langage du logos exprimable. Et par exemple, nous trouverons commode d'expliquer l'intuition, qui est le rapport le plus proche de l'homme avec l'immédiat, à partir de la pensée, à partir d'une pensée discursive. Et par exemple, nous dirons, vous m'excuserez si je le répète, puisque je ne ferai que je me redirai, mais c'est pour être clair que je le dis dès aujourd'hui, parce que c'est plus clair de le dire aujourd'hui, bien que c'est plus tard qu'il faudrait le dire, je définirai l'intuition comme une fracture de la pensée. Dire que l'intuition est une fracture de la pensée, une pensée qui s'interrompt, ce n'est pas dire ce qu'elle est en elle-même, car bien entendu, je vois bien, je dis que la pensée s'interrompt, mais je ne dis pas quel est le contenu de cet événement, je ne dis pas en quoi consiste cet événement, et même si l'événement n'a pas de contenu, car un véritable événement de l'instant n'a pas de contenu, je ne peux même pas dire en quoi consiste directement cet événement, même s'il n'a pas de contenu. Mais je dis simplement qu'il y a une pensée qui s'interrompt pendant un instant, mais naturellement, dans le sommeil, elle s'interrompt aussi, et dans la syncope, et pourtant la syncope n'est pas une intuition. Nous aurons donc à distinguer une intuition et une syncope, n'est-ce pas ? Et les mauvaises langues vous diront que ça ne se distingue pas. Eh bien, nous laisserons les mauvaises langues et les esprits forts, et nous essayerons de voir qualitativement et intuitivement la différence entre ces deux fractures, qui est aussi grande que celle de la terre au ciel, et qui est aussi grande que celle du sous-être à celle du sur-être, comme nous disions tout à l'heure, lesquels sont tous les deux non-êtres, mais ils sont non-êtres tous les deux comme les extrêmes se touchent. Et il y a un monde entre eux. Voilà quelques considérations introductives, un peu générales, qui nous permettent maintenant de mieux comprendre la difficulté de notre objet. N'est-ce pas, que vous devinez avec moi, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire maintenant, n'est-ce pas? C'est une question que je me pose moi-même avec angoisse, croyez-le. Il n'y a pas, vous n'êtes pas seul à vous la poser, si tandis que vous posiez des questions sur ce que je dis. Nous dirons que, de même qu'une positivité absolue est quelque chose où la pensée ne peut pas trouver où se prendre, où elle, littéralement, elle ne trouve pas des prises, comme nous disions tout à l'heure, une matière, une étoffe pour penser, et qu'elle se définit pratiquement, tout au moins d'en bas, où nous sommes placés, comme une absence de toute virtualité. De même encore que l'essence simple et pure. Et vous comprenez bien, d'entrée de jeu, qu'il y a une grande fraternité entre ces concepts, ces adjectifs, simple, pur, immédiat. Innocence par laquelle nous terminons également. comme une essence simple et pure est une essence dans laquelle il n'y a rien à inventorier ou à répertorier. C'est-à-dire, pour prendre à la fois l'espace et le temps, qui sont les deux dimensions qui nous rendent le plus bavards, n'est-ce pas ? Qui nous donnent une riche matière, qui nous donnent, comme nous disions, du pain sur la planche. Il n'y a rien dans l'être, l'essence simple et pure, rien à décrire et rien à narrer. Rien à décrire dans l'espace, puisque c'est un point, et rien à raconter dans le temps, puisque c'est un événement qui ne dure qu'un instant, et que pour raconter quelque chose, il faut quelques événements, au moins deux. Avec deux événements, il y a une petite histoire, déjà, enfin, des petites annales, des éphémérides, mais quand il n'y en a qu'un, quand il y en a un millionième d'événements, qu'on appelle un instant, alors je meurs de faim. Donc, de nouveau, rien à décrire dans l'espace, rien à narrer dans le temps. Rien à énumérer et à définir dans l'espace, et c'est à la fois l'indescriptible et l'inénarrable. Pas l'indescriptible dans l'espace, l'inénarrable dans le temps, et par conséquent, l'indéfinissable. Et nous disons, mais naturellement, ce sont des définitions de la palisse, nous disons que l'être pur est l'être qui est sans mélange. Nous voilà bien avancés, n'est-ce pas ? Nous définissons évidemment le positif par le négatif, parce que c'est le négatif qui nous paraît positif. L'être pur est celui qui n'est pas mélangé, c'est-à-dire qui n'a pas d'addition. Un lait est pur quand il n'est pas coupé avec de l'eau. Un vin est pur, c'est ça qui est clair, quand il n'est pas coupé avec de l'eau. Et donc l'absence de la mixtion, qui est l'élément assignable sur lequel nous avons prise au point de vue empirique, parce que en fait c'est l'impur qui est descriptif, descriptible, qui est positif et qui est dosable. Et c'est pourquoi, machiavéliquement, ça explique notre goût de l'impureté, remarquez-le, notre aversion pour la pureté. Par les phrases, nous sommes très amoureux de la pureté. Nous en parlons tout le temps, et comme de l'immédiateté, mais nous en avons peur parce qu'elle nous retire le pain de la bouche, n'est-ce pas ? Et que, plus qu'à la pureté, nous tenons à notre profession, nous tenons à ce que ça roule, nous tenons à ce que nos discours réussissent. Et alors, la pureté, nous l'épaississons comme un plaisir, comme une cuisinière qui fourre de tout dans sa soupe. Pour l'enrichir, c'est comme une soupe épaisse, n'est-ce pas ? Une soupe riche, dans laquelle on a fourré de tout. Tandis qu'avec la pureté se comparerait à l'eau de Castalie, ou à cette eau dont parle Platon dans le Philebe, qui est insipide, incolore, inodore, bref, dénuée de toute qualité, rien à en dire, le goût elle n'en a pas, la couleur elle n'en a pas, puisqu'elle a celle du bocal dans lequel elle se trouve, l'odeur non plus, rien d'assignable, rien de se prendre, et c'est la pureté, c'est la limpidité, avec laquelle on meurt de faim. Et encore, l'eau, elle a une température, elle est fraîche, mais supposez à la limite quelque chose d'encore plus pur que l'eau, la transparence pure, et finalement, à la manière de Plotin, j'arriverai bien à vous infléchir, quoique avec moins de profondeur, vers quelque chose qui est absolument l'impensable absolu. Eh bien, de la même manière, seulement il ne s'agit plus cette fois d'une qualité intrinsèque, qui est la pureté, comme absence notamment de qualités sensibles, concrètes et assignables, nous dirons que l'immédiat est ce qui ne se prête à aucun développement. Rien à en dire que ceci, qui est aussi négatif, c'est ce qu'on atteint sans intermédiaire. Comme tout à l'heure, nous disions, est pur ce qui est sans mélange, ce qui n'est pas coupé, un vin qui n'est pas baptisé. Mais sans mélange, sans intermédiaire, tout ça, c'est toujours de la théologie apophatique. C'est des définitions négatives et non point positives. Nous dirons encore, parce que l'immédiat s'atteint sans intermédiaire, et je répète que M. de la Palisse ne parlerait peut-être pas autrement, bien que c'est l'art philosophique ce que je dis, et peut-être ce n'est qu'une lapalissade, c'est par suite ce qui n'est absolument pas problématique, ce qui n'implique pas le problème, car avec les intermédiaires commencent les problèmes, à la bonne heure. L'homme a retrouvé ses problèmes, dont il a tellement besoin que quand il n'en a plus, il en invente. En jouant aux échecs, par exemple, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes, n'est-ce pas ? L'homme en invente. Il invente de la médiation avec un échiquier parce qu'il a la nostalgie. Ce qui donc, mais nous ne sortons toujours pas de la théologie apophatique, de la philosophie apophatique, ce qui n'est pas la conclusion d'un raisonnement, ce qui n'est pas le terme d'une délibération, ou le verdict qui suit une délibération. mais ceci est toujours négatif. Donc, ce qui domine toujours dans notre philosophie, sous notre soi-disant philosophie de l'immédiat, c'est la préposition « sans ». Sans, sine, n'est-ce pas ? Sans mélange, sans intermédiaire, sans complication. La simplicité, c'est ce qui n'a pas de complication. Mais bien qu'en principe, la complication soit une complication de la simplicité, il nous semble bien que, par rapport à nous, comme dirait Aristote, sinon en soi, prosémas et non point katoto, c'est la complication qui est première, la bonne soupe dont je parlais tout à l'heure, la soupe épaisse. Et qui n'applique pas, donc, sans mélange, sans complication, sans problème, sans négation, sans possibilité, et finalement, sans relation. Sans virtualité, et finalement, sans relation. Et même si tout cela, ce sont des négativités, car en somme, complication, médiation, ce sont des négativités, nous dirons que nous ne comprenons cette positivité que lorsque nous pouvons la convertir dans la négation d'une négativité. Elle n'est intelligible pour nous, mais quand elle devient la négation d'une négativité. Soit la médiation et la négativité, il n'empêche pourtant que l'immédiat n'est clair pour nous, et je ne puis le définir qu'en niant cette négativité, et par conséquent en le présentant négativement. Voilà la vue que nous en prenons d'en bas, c'est-à-dire d'en bas, enfin d'ici bas, enfoncés que nous sommes dans le réseau compliqué des problèmes, enfoncés dans la soupe, que quand on est de mauvaise humeur, on appellera le marais, le bourbier, comme les orphiques. Mais quand on est de bonne humeur, on dira autre chose. Nous sommes enfoncés dans un réseau, dans un tissu de relations. Le tissu épais auquel Platon s'est converti dans sa vieillesse, auquel il a attaché tellement d'importance dans le politique, le tissu politique, la sume ploquet, n'est-ce pas, l'art des mélanges, l'eugénique, les mariages, l'association, la complication, en un mot. Et donc, nous sommes ici-bas enfoncés dans ce qui est la raison d'être de nos affaires, comme on dit si bien, qui nous donne en effet quelque chose à faire. Eh bien, d'en bas, nous prenons cette vue négative sur la transparence absolument aproblématique, n'est-ce pas, sans problème, non problématique, de l'immédiat. Nous prenons une vue négative sur cette transparence parce que nous sommes enfoncés dans un système dense et serré de relations pensables, dans une sume ploquet, n'est-ce pas, comme dit Platon, un tissu serré, et que lorsque nous voulons concevoir l'immédiat, il faut concevoir ce tissu tellement raréfié, tellement mince, que finalement, le silence s'impose. Puisque je parlais de tissu, ce sera le moment de reparler de la nudité, n'est-ce pas ? Il n'y a plus rien. Il faut aller tout nu, n'est-ce pas ? Donc, c'est l'asymptote du silence, l'asymptote du discours philosophique sur l'immédiat, ce serait évidemment le silence. Le silence est la limite de cette psychologie, de cette philosophie négative de l'immédiat. Voilà où nous en sommes. Voilà notre triste part, la part que nous avons choisie, que j'ai choisie, cette année, qui est donc difficile. Difficile, comme vous le voyez, d'une difficulté paradoxale, d'une difficulté ironique, d'une difficulté dérisoire, car il y a deux espèces de difficultés. Il y a la difficulté laborieuse, scabreuse, qui est due à la complication, comme pour les savants, n'est-ce pas, avoir affaire à des équations très compliquées, à des phénomènes physiques dans lesquels les facteurs sont très nombreux, sont embrouillés, se mélangent les uns aux autres, et où il est extrêmement difficile de formuler une loi, de dégager une prévision quelconque. Voilà une bonne difficulté, une difficulté qui ne nous laissera pas mourir de faim. Si difficile qu'elle soit, à la bonne heure, ça nous donne du goût de vivre, le chantier est ouvert, la ruche bourdonne, et nous sommes à notre affaire. Mais il y a une autre genre de difficulté, qui est elle proprement philosophique, n'est-ce pas ? Une difficulté paradoxale, une difficulté du vide, n'est-ce pas ? Qui est celle à laquelle on achoppe chaque fois qu'on va au-delà d'un certain point et quand on va vers des réalités souveraines. C'est celle à laquelle nous avons achoppé nous-mêmes en parlant de la mort, bien qu'il n'y ait pas tellement de ressemblance entre le problème de cette année et le problème de l'an dernier. Oh, si, il y en a. Vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns. Nous avons trouvé ces difficultés en parlant de l'instant, il y a plusieurs années, en parlant du fort intérieur. Enfin, la difficulté, c'est de savoir ce que nous allons dire. Eh bien, ce problème, cette question, nous nous la sommes souvent posée en parlant du problème de la mort, et cependant j'en ai parlé pendant 2 ans, sans avoir en somme rien à dire, n'est-ce pas ? Voilà donc un problème du même genre qui se pose pour l'immédiat, encore que la mort ne soit pas l'immédiat. Ou comme je le disais tout à l'heure, attention, la mort est à la fois immédiate et pas immédiate. Le problème est le même et pas le même. La mort, d'abord, n'est pas immédiate, et c'est pourquoi j'ai tort de les comparer. La mort n'a rien d'immédiat, et même elle en est le contraire, en ce sens que, comme vous le savez déjà, surtout si vous avez suivi ces leçons, elle est absolument lointaine. Elle n'est jamais proche et toujours au futur, toujours à venir, donc jamais impromptu, jamais à notre portée. Et jamais personne, le sujet parlant de lui-même, ne peut la voir autrement que comme un avenir, donc comme une chose éloignée et non point immédiate. La mort n'est jamais donnée. Les données immédiates dont parle Bergson, n'est-ce pas, n'ont rien de commun avec la mort. Et d'ailleurs, la mort n'est guère un objet bergsonien de réflexion philosophique. L'immédiat, chez Bergson, est une chose familière, proche de nous, concrète, vécue dans une expérience positive, nominaliste, en quelque sorte, et qui exclut tout à fait l'expérience de la mort. Il n'y a pas, chez Bergson, d'expérience de la mort, parce que la mort n'est jamais une donnée immédiate, et qu'elle n'est, en ce sens, jamais présente, et d'autre part, qu'elle est déterminée et dans sa date et dans sa forme. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas quoi, nous ne savons pas comment, s'agissant de la nôtre, et par conséquent, tout en elle est indétermination. Mais en un autre sens, c'est pourquoi je disais attention, et il y a une parenté, une certaine parenté profonde entre ces deux problèmes et des difficultés du même genre qui nous attendent pour l'un et pour l'autre. En un autre sens, eh bien, elle est quelque chose qui est toujours donnée. Cette chose jamais donnée est en un autre sens, c'est inconnu jamais donné est en un autre sens toujours présente et constamment donnée, toujours aux portes de la vie, toujours à la limite de la vie et de la maladie, par exemple, présente dans la maladie, quoi qu'on n'en parle pas. Ce futur, toujours futur, du moins pour le sujet qui en parle, est en un sens toujours présent, de même que ce présent est toujours futur. Est un futur toujours présent, un présent toujours futur, perpétuellement, à la fois prochain et lointain. Rien n'est plus proche que la mort, rien n'est plus lointain, et pourtant, rien n'est plus familier. Rien n'est plus étrange, et rien n'est plus familier. Et c'est pourquoi elle est pressentie et comprise au premier regard. Pourquoi il y a une intuition de la mort qui fait que du premier coup, le dernier des imbéciles comprend qu'il s'agit de la mort, n'est-ce pas, et à quoi il a affaire, ce qui le menace. Il y a une fraternité des hommes devant la mort, d'abord, comme devant leur destin. D'autre part, il y a une prescience d'une chose que nous ne connaissons pas, d'une chose que nous n'avons jamais expérimentée, et pour cause, qui est donc parfaitement inconnue, et nous reconnaissons ce que nous ne connaissons pas. Comment peut-on reconnaître ce que l'on ne connaît pas ? Eh bien, c'est un peu comme l'anamnésis, la réminiscence platonicienne, dans laquelle l'homme reconnaît ce que empiriquement il ne connaît pas. Et Platon disait mythiquement qu'il l'avait connu jadis avant sa naissance, d'une connaissance prénatale, d'une connaissance intelligible. Eh bien, dans cela, nous avons beaucoup d'éléments pour comprendre l'immédiat. L'immédiat est ce que nous connaissons d'un regard prochain et lointain, une chose que nous reconnaissons sans la connaître, que nous n'avons jamais vue et dont nous sommes pourtant étrangement proches, et que nous connaissons par une inspection instantanée et une mystérieuse connaissance qui est la connaissance immédiate.